Bonne nuit sur France Inter.
Il est 3h, le flash Alexiara. Des habitants évacués, des routes coupées et un train remorqué. L'eau continue de monter dans l'est du pays après les fortes intempéries de ce vendredi. La vigilance rouge pluie-inondation a été levée en Moselle, mais la vigilance rouge crue, elle, a été déclenchée. La décrue n'est pas attendue avant la mi-journée. Une partie du village de Diemeringen, dans le Bas-Rhin voisin, a lui été évacuée en début de nuit. Et les passagers du train Francfort-Paris eux dorment à Forbach. Leur train a été stoppé par la chute d'arbres sur les voies. Une situation plus calme au cinquième jour des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Les autorités font état d'un recul des violences, même si certains quartiers de Nouméa restent hors de contrôle. L'archipel est maintenu sous état d'urgence. Le procureur annonce l'ouverture d'une enquête visant les commanditaires des émeutes. À Paris, des élus ont appelé à l'issue d'une réunion à Matignon à repousser la convocation du Congrès. Un Congrès qui doit entériner la réforme constitutionnelle du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Des rassemblement républicain ce vendredi soir à Rouen et Paris après le début d'incendie volontaire de la synagogue de Rouen. Un homme armé d'un couteau a commencé à mettre le feu au lieu de culte dans la matinée et il a menacé la police avant d'être tué par les forces de l'ordre. La consultation des généralistes passera à 30 euros en décembre selon un projet d'accord entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux. Le texte prévoit également des hausses pour les spécialistes. Il doit maintenant être ratifié par un groupe suffisamment représentatif de syndicats pour entrer en vigueur. Vladimir Poutine affirme ne pas vouloir conquérir Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. L'offensive actuelle dans le nord-est du pays est selon lui une réplique contre les frappes ukrainiennes sur le territoire russe. Le président russe qui laisse par ailleurs entendre qu'il ne respectera pas la trêve olympique et poursuivra les combats en Ukraine pendant les Jeux de Paris. L'armée israélienne dit avoir découvert les dépouilles ce vendredi de 3 otages israéliens dans la bande de Gaza. 3 participants qui avaient tenté de fuir un festival lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Leurs corps ont été rapatriés en Israël. C'est une première dans l'histoire de l'île. La Martinique, placée en situation de crise sécheresse face à une situation hydrique exceptionnelle selon les autorités. 70% de pluie en moins que la moyenne au mois d'avril. De nombreuses restrictions d'eau sont mises en place, notamment concernant l'usage des particuliers et des entreprises. Le roi Charles III et la reine Camilla attendus le 6 juin à Vers-sur-Mer en Normandie pour les commémorations du 80e anniversaire du débarquement. Ça se passera au mémorial britannique. Le prince William, lui, sera présent à la commémoration internationale qui aura lieu à Omaha Beach. Un 17e titre de championne de France pour les Lyonnaises en football, vainqueur du duel à domicile ce soir 2 buts à 1 face à leurs meilleurs ennemis, les Parisiennes. Et autre événement footballistique de la soirée, Angers retrouve la Ligue 1, deuxième de Ligue 2 au terme de la dernière journée de championnat. Une montée directe pour le SCO, comme pour Auxerre, déjà sacré champion la semaine dernière. Saint-Etienne devra patienter pour connaître son adversaire en barrage. Ce sera le vainqueur de l'affrontement entre Rodez et le Paris FC.
Les Nuits de France Inter, la suite, avec les Odyssées, une histoire originale racontée par Laure Grand Besançon.
Nous sommes en 1800, au nord-ouest de l'Amérique, sur ces terres qui, bientôt, deviendront les États-Unis. Sur les hauts plateaux de ces immenses montagnes qu'on appelle les Rocheuses, vit le peuple, Shoshone. C'est l'été. Un peu à l'écart du campement, dans de gros buissons verts et touffus, des mains apparaissent et disparaissent. Un petit groupe cherche des baies. Soudain, la terre tremble. Des chevaux déboulent à toute berzingue. Oh non, non! Ce sont des guerriers de la tribu Hidatsa! C'est la panique. Il faut s'enfuir, courir, vite! Là, de longues tresses claquent dans le vent. C'est une fillette, 12 printemps au compteur, qui file vers la rivière.
Là-bas, nos ennemis ne mourront pas. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe?
Le sol, tout à coup, se dérobe sous ses pas. Comment? Elle s'en va? Hélas, non! Un guerrier Hidatsa vient de la kidnapper! La tête en bas, elle voit défiler la terre à toute allure.
Je fais pas le poids, mais tant pis!
Elle se débat, elle tape, elle mord! Purée, ça ne m'étonne pas. Dans 4 ans à peine, cette fillette Shoshone va marquer l'histoire des États-Unis à tout jamais. Grande aventurière, Membre de la fameuse expédition Lewis et Clark, Sacagawea va participer à la première traversée américaine du continent d'est en ouest. Attaque de grizzly, froid glacial, faim, maladie, rivière archi-archi-tumultueuse, bienvenue sur la terre de tous les dangers. Voici l'odyssée de Sacagawea, Shoshone valeureuse, dure à cuire, l'une des femmes les plus connues de toute l'Amérique. Le 23 octobre 1804, c'est déjà l'hiver, dans ce magnifique coin du monde qu'on appelle aujourd'hui le Dakota du Nord. Quelques aigles planent entre les flocons de neige, et là, au milieu de grandes plaines gelées, le long fleuve Missouri court, en charriant sur son dos un grand bateau à voile accompagné de canoës et de pirogues. Sapristi !
Wouhou ! C'est une expédition !
À la proue du navire principal, deux jeunes hommes scrutent l'horizon avec une longue vue.
Clark ! Regardez ! Des antilopes ! Et des bisons !
Cela fait 6 mois que les capitaines Meriwether Lewis et William Clark ont quitté la ville de Saint-Louis sur la rive ouest du fleuve Mississippi. 6 mois, même pour deux aventuriers passionnés, c'est long.
Oh, Clark, ça ne vous manque pas un bon dodo dans un petit lit douillet et... Oh, une belle tranche de gigot, comme on les sert à l'auberge.
Oui, un peu, mais tenez-vous, mon vieux, il y a des enfants qui nous écoutent.
Cette mission d'exploration, c'est Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, qui l'a organisée en personne. À cette époque, le pays ne s'étend pas encore de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, mais seulement sur la partie est de l'Amérique du Nord. Tout ce qui se trouve à l'ouest, après le fleuve Mississippi, tout ce que nous appelons aujourd'hui le Colorado, le Wyoming, le Montana, pour les Américains d'alors, c'est le grand inconnu. Aucun d'entre eux n'a encore foulé ces terres, aussi sublimes que dangereuses, remplies de forêts, de canyons, de déserts, où vivent parfois depuis plus de 1000 ans ses premiers habitants, les nations Lakota, Cheyenne, Navajo, Pawnee, Shoshone ou encore les Blackfoot. Le président Jefferson, féru de science et de découverte, est passionné par ce Grand Ouest. D'autant qu'il vient tout juste d'acheter l'immense territoire au centre qu'on appelle la Louisiane, à la France.
C'était pas très cher et... Ouais, franchement, ça valait le coup. Bon, maintenant, faut aller voir. Qui sait ce qui se trouve là-bas? Peut-être d'énormes mammouths couverts de laine?
Les objectifs de Lewis et Clark sont très clairs. Atteindre la côte pacifique en repérant les nouvelles espèces de plantes, les animaux inconnus, les fleuves, les montagnes, mais aussi en allant à la rencontre des peuples de la région. Les deux compères doivent nouer des liens avec eux, apprendre leur langue et surtout les informer qu'ils vivent désormais sous la protection du grand-père blanc qui habite à Washington, autrement dit, le président Thomas Jefferson. Oui, donc l'objectif, en fait, clairement, c'est la domination.
Non, je dirais pas ça alors. Ces Indiens sont un peu comme mes enfants. Les États-Unis sont une jeune nation extraordinaire. Nous construisons l'Empire de la Liberté. Cet empire, il doit s'étendre. Partout où nous allons, nous apportons la civilisation et le progrès.
Oula, ça sent l'embrouille. Ah oui, la très grosse embrouille. Lewis, Clark et les 30 hommes que compte leur expédition s'installent près d'un village de la tribu des Mandans. Cela fait quelques jours que ces derniers les suivent en les observant depuis la berge.
Ces visages pâles sont plus nombreux que d'habitude et bon sang, ils ne savent pas naviguer. En 3 jours, ils se sont pris 4 bancs de sable.
Attention, Clark!
À gauche!
Non, pas à gauche, à droite!
Après avoir exploré les environs, Lewis et Clark se présentent au chef des villages alentours.
Hello, good morning, William Clark.
Chaque fois, c'est le même cirque. Ils offrent de l'alcool, des bijoux, des hameçons, du tabac, des médailles.
Le grand-père blanc a de très grands projets pour vous.
Oh, mais qu'il est mignon cet enfant. Gouzi.
Vous permettez, madame, que je l'enroule dans notre drapeau? Un nouveau bébé américain, tout frais, tout chaud.
Oh non, mais c'est pas vrai, arrêtez-les! Oula, qu'est-ce qui se passe?
Eh, vous voyez? Comme nos fusils tirent loin?
Ah, oui, j'avais oublié. Quand les deux capitaines sortent de la résistance, ils sortent leurs gros fusils pour montrer qu'ils sont archi, archi forts.
Oh, attention, baissez-vous!
Ces longs couteaux sont vraiment à côté de leurs mocassins. Leurs cadeaux sont minables. Et on comprend rien à leur projet. Mais que veulent-ils? Le commerce ou la guerre? On est très, très, très mal barrés.
Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. La neige tombe désormais à gros flocons. Le fleuve Missouri est recouvert de glace. Lewis et Clark donnent l'ordre de construire un fort pour passer l'hiver sur les terres des Mandans. Ce peuple de chasseurs de bisons vit, de façon permanente, dans des villages presque aussi grands que des villes, entourés de hautes fortifications qui sont devenues au fil du temps de très gros centres de commerce. Et pétard, il y a du monde! Des crocs, des Cheyennes, des Kiowas viennent ici échanger de la viande, des chevaux et des vêtements de peau. Et ils ne sont pas les seuls. On croise aussi pas mal de marchands blancs. Des Anglais, des Canadiens, des Français qui sillonnent les Grandes Plaines depuis un paquet d'années. La région, c'est certain, ils la connaissent bien mieux que nos explorateurs américains. Alors, quand un marchand d'origine française se présente à eux, ma foi, ils l'accueillent à bras ouverts. Oui, j'exagère un peu. Hé, hey, les gars, réveillez-vous, sinon l'histoire, elle va se faire sans vous.
Quoi? Oui, on est là.
Ce baroudeur s'appelle Toussaint Charbonneau. Né au Québec, il a pas mal roulé sa bosse et vit depuis quelques années dans un village à quelques heures de cheval. Il parle de nombreuses langues et sait cuisiner de bons petits plats. Bingo! Il est engagé comme interprète. C'est ainsi que Toussaint Charbonneau rejoint Fort Mandan avec ses deux épouses, dont la plus jeune est Shoshone. Une jeune femme Shoshone? Oh, pardi! Mais oui, c'est Sacagawea! Celle-là même que nous avons quittée au tout début de l'épisode! Youhou! Sacagawea! Youhou!
Ah, purée, là! C'est pas trop tôt, j'y croyais plus!
Oui, c'est vrai que votre arrivée est un peu tardive, mais je devais planter le décor, présenter les personnages, tout ça. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il s'en est passé des choses.
Ah ça, un sacré paquet! Vous vous souvenez que j'ai été arrachée à mon peuple, les Shoshone, par un guerrier Idatsa? Bon... Bah, j'ai vécu parmi eux pendant quelques années, j'ai appris leur langue, leurs rites, et l'un dans l'autre, ça se passait plutôt bien. Jusqu'à ce que Toussaint Charbonneau me gagne une partie de cartes. Et la rebelote, il a fallu tout recommencer. Vous me direz, j'ai 17 ans et la vie devant moi, mais bon, ça mine un peu le moral, quoi.
Ah bah oui, je comprends. Vous ne devriez pas être traité comme ça. L'arrivée de Sacagawea à Fort Mandan étonne les hommes de l'expédition. D'autant qu'elle est enceinte. Certains se demandent ce qu'elle fait là, mais pas le capitaine Clark.
Lorsque nous ne pourrons plus remonter le fleuve Missouri avec nos canoës, nous aurons besoin de chevaux pour transporter le matériel. Les Shoshone ont des chevaux. Sacagawea pourrait nous être utile.
Les semaines passent. Sacagawea, longue natte noire, robe de peau, ceinture de perles bleues, observe tous ces hommes blancs qui l'entourent.
Ils sont si poilus qu'ils ressemblent à des grizzlies. Et pourquoi ne lâchent-ils jamais leur drôle de bâton à foudre?
L'hiver est glacial. Il fait parfois moins 45 degrés. Une nuit, Lewis et Clark voient apparaître dans le ciel noir une traînée de lumière verte qui danse et devient bleue, puis rose.
Wow, c'est sublime, magique. Wow, c'est absolument magnifique.
C'est une aurore boréale.
Ça y est, l'enfant arrive!
L'accouchement est long et douloureux. Lewis assiste Sacagawea.
Tenez bon, Sacagawea!
Pour faire passer la douleur, on lui fait avaler de la poudre de serpent à sonnette.
Oh purée, j'ai envie de répondre, mais on n'a pas le temps pour les blagues!
Et ça marche! Le petit s'appelle Jean-Baptiste. Il devient le plus jeune membre de l'expédition. Lewis et Clark. Car Sacagawea partira avec les explorateurs blancs, c'est certain! Et elle emmènera son fils. Elle sait que ce qui l'attend est difficile, mais qu'importe. Après les grandes plaines, s'élèvent d'immenses montagnes couronnées de neige. Sur ces hauts plateaux, c'est là que vit son peuple, les Shoshone. Et puis, qui sait jusqu'où elle pourrait aller ? Sagagawea sent battre au fond de son cœur le puissant appel de l'aventure.
Plus loin encore, il y a l'océan. Cet immense lac salé qui, lorsqu'il touche l'horizon, ne fait plus qu'un avec le ciel.
Des petites fleurs poussent dans la neige.
Oh, c'est le printemps!
L'expédition, enfin, peut reprendre la route. Toussaint Charbonneau et Sagagawea, son petit garçon d'à peine 2 mois sur le dos, font partie du voyage. C'est un petit matin frais. Oh, l'air sent la terre mouillée. Les oiseaux chantent dans le ciel. 6 canoës et 2 pirogues glissent sur les eaux calmes du Missouri. En quittant Fort Mandan, les explorateurs quittent les grandes plaines. Ils mettent le cap vers les Rocheuses, d'immenses montagnes glacées dont peu se sortent vivants. Mais avant ça, il faut remonter le fleuve Missouri, affronter ses courants, éviter ses cascades. Alors, bon sang, qui sait ce qui les attend ?
Nous entrons dans le grand inconnu, Lewis.
Et Sagagawea va-t-elle enfin retrouver son peuple ? Tout cela, mais oui, tu le sauras. Enfin, si je fais bien mon boulot, en écoutant le 2e épisode. Derrière cette odyssée, il y a Marion Lelay, Basile Bocquer, Adèle Caglar, Fanny Leroy, Alice Rouet et moi, Laure Grand Besançon. Thomas Jefferson est le 3e président des États-Unis, mais il est aussi celui qui a rédigé la déclaration d'indépendance du pays. Quezaco ? À la fin des années 1700, le Royaume-Uni possède 13 colonies installées en Amérique du Nord, le long de la côte Est. Fatigués de payer de trop lourdes taxes, ces colonies se sont révoltées contre le pouvoir anglais, ainsi est née la Révolution américaine qui s'est très vite transformée en guerre. Le 4 juillet 1776, ces 13 colonies ont signé leur déclaration d'indépendance, un texte fondateur, l'acte de naissance des États-Unis. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.
Vous venez d'entendre Les Odyssées, la série de podcasts originaux pour les 8-12 ans, de l'aventure, de l'histoire et du mystère. De nombreux épisodes à télécharger sur franceinter.fr et sur l'application mobile France Inter.
Inter la nuit. Bienvenue dans la playlist Sound System. Yeah. playlist Sound System, la face B de la musique de France Inter.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
dust that is gone with the light. A loin, a crack, a neck, a sham. It's a year, it's a day, it is under a gram. The tip of a tongue, all lathered in spite, and a mind that won't stop. It's the flood, it's the flood.
Playlist Sound System sur franceinter.fr. France Inter sort ses pépites musicales. C'est la playlist Sound System.
un instant, juste après les infos, suite des Nuits d'Inter, avec grand bien vous fasse.